franceinter.fr.
La revue de presse de Frédéric Pommier. Bonjour Frédéric. Enfin, bonjour, je vous dis bonjour, mais on s'est déjà
Patricia,
vu tout à l'heure,
c'est pas grave. Bonjour Pierre et bonjour à tous. Même les plus avertis peuvent parfois se faire flouer. C'est ce qui ressort de l'enquête que publie à sa une Libération ce matin. Une longue et passionnante enquête d'Emmanuel Fansten. Une enquête sur le trafic d'art. Comment Versailles s'est fait escroquer. Escroquer de près de 3 millions d'euros. Et tout cela à cause de chaises, Patricia. Des fausses chaises qui valaient donc 3 millions d'euros. Panique dans le milieu alors que la Biennale des Antiquaires s'ouvre samedi prochain au Grand Palais à Paris. C'est donc une vaste fraude qui éclabousse la profession du faux mobilier. Certifié 18e a été réalisé à la demande d'un spécialiste, puis acquis au prix fort par le château de Versailles. Le spécialiste est un expert très renommé. Deux galeries très renommées aussi sont mouillées dans l'affaire. Une affaire donc d'antiquité, de fausses antiquités. Mais vraiment payé avec l'argent du contribuable, système de grande ampleur. Et c'est la réputation de toute la profession qui se trouve donc aujourd'hui entachée. Le marché de l'art à la une de Libération, mais pour le reste, comme souvent, c'est l'actu politique qui continue de dominer dans les journaux. Ainsi, dans Le Monde, vous lirez comment François Hollande veut être candidat. Il pourrait se déclarer en décembre et il a lancé plusieurs fois à ses proches que ne pas réfléchir à des propositions d'ici là serait un risque sérieux. Il demande donc à ses proches de réfléchir à des propositions d'ici le mois de décembre. De son côté, le Parisien s'intéresse à la primaire à droite, opération sauver Nathalie Kosciusko-Morizet. À 6 jours de la date butoir pour déposer ses parrainages à la primaire, l'ex-ministre de l'écologie n'a toujours pas le compte en coulisses. Les réseaux chiraciens s'activent pour l'aider, faisable ou désespérée cette candidature. L'équipe NKM se prend à espérer. Vendredi prochain, soit on est décador, soit on rentre chez nous et on fait du sport, disent-ils.
Et puis Marine Le Pen fera aussi sa rentrée politique ce matin.
Avec un discours dans le village de Braché, en Haute-Marne, Le Pen prépare déjà son deuxième tour, titre Libération. L'analyse est signée Dominique Albertini. Rarement d'aussi favorables circonstances auront entouré la rentrée frontiste. Exécutif au summum de l'impopularité, droite absorbée par sa compétition interne, omniprésence des thématiques identitaires, sécuritaires et migratoires, tout semble servir la candidate FN, à qui les sondages promettent à ce jour une confortable accession au second tour de la présidentielle, et sur des scores inédits, à peine en dessous des 30%, nous pouvons légitimement souligner notre avance sur les autres partis, juge d'ailleurs le secrétaire général Nicolas Bay. Nous, nous sommes unis, nous avons un projet, et nous sommes au centre du débat, au-delà du potentiel électoral, la victoire culturelle du parti semble effectivement patente, à en juger par les déclarations d'un certain nombre de figures politiques hors Front National. Un Éric Ciotti jugeant que Hollande a été élu grâce à un islam politique. Un Jean-Pierre Chevènement appelant les musulmans à la discrétion dans l'espace public. Une Nadine Morano n'ayant retenu du général de Gaulle que quelques mots sur la race blanche. Des progrès idéologiques aussi manifestes dans l'opinion dans une enquête IFOP publiée le 31 août. 59% des sondés se déclaraient opposés à l'acquisition automatique de la nationalité française par les enfants nés en France de parents étrangers. C'est sans doute ce qu'on peut appeler la lepenisation des esprits, phénomène que confirment les témoignages recueillis cette semaine par le New York Times.
Oui, le quotidien américain a en effet compilé plus de 1000 témoignages recensant la souffrance quotidienne des femmes musulmanes en Europe et particulièrement en Belgique et en France.
Ainsi que le rapporte le site Slate.fr, tout est né d'une annonce publiée par le journal dans son édition du 22 août dernier. Voilà ce qu'elle disait. La polémique autour de l'interdiction du burkini divise la France et l'Allemagne se penche sur une proposition de loi limitant le port du voile. Nous aimerions recueillir des témoignages de musulmanes en Europe qui vivent avec ces débats au quotidien. Et plus d'un millier de femmes ont donc répondu à l'annonce, faisant part de leur détresse et des discriminations dont elles font l'objet. On m'insulte et on me crache littéralement dessus. Dans le métro, dans le bus et même dans mon école, explique ainsi Charlotte, 23 ans, qui vit à Toulouse. Pourtant, moi, précise-t-elle, je n'ai jamais insulté ni frappé qui que ce soit. Non, je suis juste musulmane. Et j'ai peur, un jour, de devoir porter sur mes amis une lune jaune, comme l'étoile de David pour les juifs il n'y a pas si longtemps. De son côté, Nora, étudiante en école d'ingénieur à Paris, compare son quotidien à celui de l'apartheid. « Je me sens mal à en devenir parano », dit-elle. « Élève en classe prépa, je me suis fait traiter de salafiste et menacé de mort par un de mes camarades, simplement parce qu'il m'a vu dans la rue avec mon voile. Et quand j'en ai parlé à la proviseure adjointe du lycée, la seule solution qu'elle a trouvée, c'était notre renvoi à tous les deux si nous n'apaisions pas les tensions qu'il avait provoquées. » Elle parle de cauchemars, elle parle d'injustice, de son envie de quitter le pays et confie qu'elle n'a pas la force de Rosa Parks, une ingénieure de moins en France, voilà leur punition. Témoignage à lire donc aujourd'hui sur le site du New York Times. En France, on a bataillé durant tout le mois d'août sur la question du burkini. Mais connaissiez-vous, Patricia, l'existence du face-kini?
Non, c'est quoi? C'est un maillot de bain pour le visage?
Oui, c'est exactement cela. Une sorte de cagoule taillée dans du lycra, cagoule avec laquelle on a l'air de sortir d'un combat de catch ou d'un club sadomasochiste. Et pourtant, donc, le face-kini fait fureur. C'est très moche depuis quelque temps sur les plages de Chine. Rien toutefois de religieux dans cet accoutrement, précise Juliette Branciard dans M, le magazine du Monde. Il s'agit là d'un masque de protection solaire inventé pour les femmes de la bourgeoisie chinoise souhaitant préserver leur teint de porcelaine. Une bourgeoisie soucieuse de se distinguer des ouvriers et paysans et de leur peau tannée par le travail sur les chantiers ou dans les champs. Pour l'heure, je ne crois pas que le dit face-kini ait déjà fait son apparition sur les plages françaises.
Vous savez qu'autrefois, c'était ça, hein, le teint de porcelaine pour les dames françaises.
Le teint de porcelaine, mais peut-être pas la cagoule. Débat vestimentaire à la une également du Midi Libre ce matin. Plus de deux tiers des Français souhaiterait le retour de la blouse à l'école. C'est du moins ce qui ressort d'un sondage BVA réalisé pour le journal. Les Français et l'école, c'était mieux avant, titre Le Quotidien. Dans la majorité des établissements, la blouse est pourtant rangée depuis belle lurette parmi les antiquités. À propos d'école, d'ailleurs, je ne saurais trop vous conseiller de vous plonger dans la lecture de la nouvelle série de reportages publiée sur Les Jours. Après avoir décrit les années collège, le site a décidé de suivre pendant un an les élèves d'une classe de seconde professionnelle. En l'occurrence, c'est au lycée Lafayette, planté en pleine campagne à Hérissy en Seine-et-Marne, une immersion au long cours qui raconte donc le quotidien de lycéens pour qui la voie générale n'a jamais été envisagée, des élèves en échec scolaire la plupart du temps, mais à l'issue de leurs études, certains décrochent un BTS et nombreux sont ceux qui parviennent à trouver rapidement un boulot. Bizarre du coup que les filières professionnelles continuent d'avoir aussi mauvaise réputation, d'autant qu'elles accueillent tout de même aujourd'hui 40% des lycéens. C'est donc le parcours de Quentin, Jérémy, de Karim, de Benoît que l'on va pouvoir suivre ici, des textes de Zineb Drieff et des photos de Julie Balaguet. Le titre de cette série, c'est « Un lycée à la campagne ». Préserver la campagne, c'est l'un des mots d'ordre de ceux qui s'opposent à l'implantation programmée de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Suite à la consultation de la population et après des années de bras de fer entre les partisans et les adversaires du projet, la construction a été finalement validée au mois de juin, mais les militants anti-aéroport continuent d'occuper la zone.
Oui, ils tiennent prêts à réagir en cas d'évacuation.
Une évacuation qui pourrait avoir lieu en octobre, branle-bas de combat chez les zadistes, titre Le Figaro, dans lequel Guillaume Frouin nous explique que se tiendra ce week-end une formation intitulée très clairement « Prêt à défendre la ZAD ». La ZAD, c'est la zone à défendre, au menu « Connaître ses droits en garde à vue », formation au premier secours ou encore course d'orientation sur la zone à défendre pour reconnaître tous les recoins. Près de 80 charpentiers venus de France et de Belgique s'affairent en outre depuis plusieurs jours afin de monter un hangar en bois de 160 mètres carrés, hangar destiné à servir de point de repli en cas donc d'évacuation policière. La une du journal est cependant plus pacifiste, grande photo de Mère Teresa qui sera canonisée demain par le pape François. La sainte de Calcula avait voué sa vie aux plus pauvres des plus pauvres. Enfin, le Figaro nous donne par ailleurs des nouvelles d'une autre icône. Ce week-end, Mireille Mathieu est l'invitée d'honneur du Festival des musiques militaires de Moscou.
C'est pas la première fois.
Comme elle le fait tous les ans depuis quelques années, elle chantera donc sur la place rouge en présence de Vladimir Poutine. Soirée lui est aussi consacrée demain à la télé polonaise.
Mais elle n'est pas canonisée.
Avec une interview qui la présente, pas canonisée, mais comme l'un des symboles de la France. Certains diront qu'on a les symboles qu'on mérite, mais personne ne contestera que Mireille Mathieu est bien l'une de nos plus célèbres antiquités.
Oh, c'est dégoûtant ce que vous venez de dire.
Absolument pas, ce n'est pas dégoûtant.
Mais vous retirez ça immédiatement.
Absolument pas, c'est du faux.
C'était la revue de presse de Frédéric Pommier.